Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Bonsoir à toutes et bonsoir à tous et merci de nous retrouver dans cette nouvelle édition du Book Club. C'est une édition un peu spéciale, un peu particulière puisque c'est un hors-série entretien dans lequel l'idée est de recevoir une autrice pour parler de l'un de ses ouvrages. Et en l'occurrence, ce soir, nous recevons Léana Lestra. Bonsoir.
Bonsoir.
Qui vient donc de publier « Les hommes hétéros le sont-ils vraiment ?» chez J.C. Lattès. Un titre qui certainement soulève peut-être déjà des questions chez vous tous qui nous regardez, vous tous et toutes. N'hésitez pas à nous poser des questions dans le chat. Au fil de cette émission, on tentera d'y répondre, enfin Léane plutôt, il tentera de vous répondre. Avant de commencer cet entretien, toutes les deux, on est aussi avec Sophie, Sophie de la team Mademoiselle, puisque Sophie, tu es là pour nous parler de ta pile à lire spéciale Panini Comics, qui est donc notre partenaire sur cette édition du Book Club.
En effet, bonsoir à toutes les deux et bonsoir à tout le monde d'ailleurs. Alors moi ce soir, comme l'a dit Marie-Stéphanie, je vais vous parler comics, donc si vous n'habitez pas dans une grotte où vous connaissez forcément les Marvel. Et si vous suivez un petit peu tous les univers, vous avez certainement remarqué que les Marvel sont un peu moins sexistes, un peu plus inclusifs qu'il y a quelques temps. Et vous n'avez pas tort. Voilà. Donc...
Ah, on a envie de savoir pourquoi du coup.
Oui. Et en fait, c'est dû à, au fait qu'il y a plus de super-héroïnes et qu'on a beaucoup de facilité à s'identifier à elles. Du coup, on a et ça, c'est dû au fait aussi qu'on a plus de femmes dans les équipes créatives, plus de dessinatrices, plus de scénaristes féminines. Voilà. Du coup, c'est quoi vos héroïnes préférées pour est-ce que vous en avez?
Moi, il y a Wonder Woman, elle est quand même iconique, puis Catwoman aussi, c'est ça. Dans Batman, je l'avais trouvé super cool, mais sinon je regarde peu de Marvel malheureusement.
Ce ne sera bientôt plus le cas.
Mais n'hésitez pas à nous dire en commentaire quelles sont vos héroïnes préférées d'ailleurs.
Mais du coup, comment tout ça se manifeste? Tu parlais du fait qu'il y avait plus de femmes, notamment scénaristes. Qu'est-ce que ça te donne du coup dans Marvel?
En fait, justement, le fait qu'il y ait plus de femmes, ça nous donne des intrigues. Les intrigues des personnages féminins sont plus profondes, les personnages féminins sont plus mis en avant, donc on le voit hein, dans les films, on a de plus en plus de personnages féminins qui portent le haut de l'affiche. Et pour appuyer la personnification, il y a plusieurs façons de le faire, notamment de faire des intrigues qui nous ressemblent dans notre quotidien. Est-ce que si je vous dis une super-héroïne qui a des problèmes, enfin nos problèmes du quotidien, vous pensez à quelqu'un en particulier, par hasard?
Catwoman, du coup.
Elle a quand même une vie un peu spéciale.
Oui.
Est-ce qu'il y en a une autre qui vous vient en tête?
Non, pas spécialement.
Ouais, alors moi, je connais pas non plus trop les Marvel, mais en vrai, je pense, et en plus c'est le premier livre que t'as sur les genoux, à She-Hulk, parce qu'il me semble qu'elle est avocate aussi, donc... À la limite, c'est peut-être celle qui peut se rapprocher le plus d'avoir une vie un peu normale et du coup, les problèmes qui vont avec aussi.
Bah, t'as pas tort. C'est le premier livre que je vais mettre en avant. Et en effet, le premier livre de ma pile à lire, c'est She-Hulk, en fait, verte et célibataire. Et en effet, c'est une super-héroïne qui arrive bien à contrôler sa colère et ses pouvoirs, contrairement à son cousin Hulk. Et du coup, elle arrive à avoir une vie professionnelle. Elle est avocate. Et en plus, on la suit, je vais pas vous spoiler, mais beaucoup dans sa vie amoureuse, que ça soit dans sa forme humaine ou sa forme super-héroïque. pour continuer dans cette personnification. Dans les personnages féminins de Marvel, on a aussi la forme féminine de Thor, qui est différente de la première super-héroïne, puisque elle est mi-super-héroïne, mi-déesse. Donc on se dit, comment on fait pour s'identifier à un personnage comme ça? Et bien en fait, dans sa forme humaine, Thor a un cancer. Donc tout de suite, ça fait redescendre le personnage sur Terre. Okay. Et du coup, on voit qu'elle aussi est confrontée à, malheureusement, des problèmes que peuvent connaître beaucoup d'humains.
Que même ses super-pouvoirs ne peuvent pas régler, quoi.
En effet. Mmh. Voilà. Et je vous spoil pas, mais en fait, à chaque fois qu'elle se transforme dans sa forme super-héroïque, ça démultiplie ses cellules cancéreuses. Donc voilà, il y a tout un truc à choisir, où il faut choisir, quoi. Voilà. Pour continuer toujours dans cette personnification, les créateurs de Marvel se sont essayés de se concentrer et de séduire de nouveaux publics, donc notamment les adolescents, les jeunes publics et les personnes de confession musulmane avec Miss Marvel. Et ça, c'est une petite révolution dans l'univers des Marvel, parce que, comme je l'ai dit, c'est une adolescente, donc elle a 16 ans, elle va au lycée. Donc, comme une adolescente lambda, en fait, elle vit à Jersey City, qui est une petite ville des États-Unis. Et elle a eu ses pouvoirs après le passage d'un nuage radioactif. Voilà, mais je vous spoil pas trop, le comics va vous apprendre comment elle gère tout ça. Voilà. Et bien sûr, pour continuer à séduire les lecteurs qui sont présents, qui lisent depuis le début les Marvel, on remet sur le devant de la scène, des super-héroïnes comme Black Widow, qui renvoie directement à la Seconde Guerre mondiale, qui est une espionne, qui avait été mise un peu de côté, et aujourd'hui on entend beaucoup parler, puisqu'elle est souvent jouée par Scarlett Johansson dans les films Marvel. Voilà. Et bien sûr, pour séduire, encore une fois, avec les super-héroïnes, les lecteurs les plus réfractaires, formule la plus simple, on prend des personnages qui existent déjà, à savoir Superman, et on lui fait une version féminine. Et là, on met tout le monde d'accord avec Captain Marvel, qui a été mise aussi de côté pendant un temps, et qui là est vraiment sur le devant de la scène, puisqu'elle aura un film, elle sera sur le devant de l'affiche à la fin de l'année. Et pourtant, Captain Marvel, elle existe, elle a été inventée 2 ans après Superman, donc vraiment début des années 40. Voilà.
On la connaît moins.
Non, on la connaît moins, ouais. Mais, mais ça vaut le détour. Et puis pourtant, elle a à peu près les mêmes pouvoirs. Mm-hmm. Enfin, elle aussi, elle a ce côté d'origine un peu alien. Donc vraiment, pourtant, elle mérite tout autant que Superman d'être connue. Et la dernière, pas des moindres, autre stratégie Marvel, c'est en fait de faire une super-héroïne qui a mis de côté ses pouvoirs.
Ah, j'adore.
Voilà, donc Jessica Jones, et on se demande un peu pourquoi elle fait partie de l'univers Marvel, et pour autant c'est sur elle que Marvel a misé pour faire sa première série télévisée à propos d'une super-héroïne.
Trop bien.
Ouais, donc je vous spoil pas trop, mais elle avait décidé de mettre ses pouvoirs de côté à la suite d'un épisode traumatique. Voilà, ça mérite d'être lu.
Ça donne envie. Ok, très bien. Tout ça donne envie. J'avoue que le dernier concernant du coup la super-héroïne qui a mis ses pouvoirs de côté, ça m'intrigue carrément.
Jessica Jones.
Alors où est-ce qu'on peut se procurer tous ces comics?
Alors les comics, ils sont disponibles depuis le 8 mars. Hein. D'ailleurs, c'est une collection qui s'appelle Super-héroïne Marvel qui est sortie à l'occasion de la journée des droits de la femme. Donc aux éditions Panini Comics, vous pouvez les retrouver en librairie, en grande surface et sur le site Panini Comics. Et si vous décidez de vous offrir le coffret avec les 6 comics, vous avez en cadeau 6 ex libris. Donc j'explique ce que c'est des gravures faites par des illustratrices sur chacune des super-héroïnes.
Trop bien.
Voilà. Ok, trop chouette.
Voilà, et c'est la première fois que je lisais des comics d'ailleurs de ma vie, et vraiment, c'était super, je suis tombée sous le charme.
C'était lequel ton préféré?
Alors, j'avoue, moi j'aime bien les histoires de mythologie, etc. Donc Thor, que je connaissais mal, je ne savais pas qu'il existait une version féminine, on connaît le film Thor, voilà.
Ouais.
Et du coup, c'était assez intéressant ce côté, se passe un peu avec les dieux, etc., mythologie nordique. Mm-hmm. Donc voilà, ça sortait un peu de l'ordinaire, quoi.
Trop cool. trop cool. Il y en a un qui te donne envie.
Thor est le dernier aussi sur celle qui a oublié ses pouvoirs, enfin a mis de côté ses pouvoirs. Ouais, non mais tous on les rejoint en vrai.
Trop cool.
Et bah,
moi pareil, le dernier. Et en vrai, je pense que Black Widow aussi me tente bien. Ouais.
Ouais, le côté espion.
Ouais, c'est intéressant aussi.
Ouais, c'est intéressant.
Puis c'est beaucoup plus rare de lire justement de l'espionnage au féminin. Donc c'est intéressant de voir, je pense, à quoi ça ressemble.
C'est vrai.
Super. Et bah écoute, merci beaucoup Sophie.
Merci. Et bah merci à vous et puis bonne fin d'émission.
Ouais, merci. Merci. On espère que tu vas nous suivre maintenant.
Absolument.
Il y a déjà des messages dans le chat. Ah, il y a The Sassy Mouse qui dit mécréante avec un cœur. Donc il y a des gens qui sont très contents que tu sois là. Emma Kumba dit bonsoir tout le monde. Et Ezoc dit oh, sympa le nouveau setup. Ouais, t'as vu, c'est chouette. Hein. On s'est dit qu'un petit setup canapé comme ça pour surtout un entretien plus en one-to-one, c'était sympa parce que d'habitude on est sur le plateau qui est là. Donc Léane le voit, mais vous qui nous regardez, vous le voyez pas. Et vous avez l'habitude de le voir dans nos autres émissions. Donc on est un petit peu moins cosy que dans ce canapé, confortable ou pas?
Oui, très confortable.
Bon, tant mieux. Alors je vais faire une petite présentation de toi, Léane, puisque tu es mon invitée ce soir. Tu es la créatrice du podcast et du média Mécréante, qui interroge nos représentations autour du genre. Tu es actuellement en études de genre et tu as participé à l'ouvrage collectif Nos Amours Radicales qui a été publié en 2021, que peut-être les personnes qui nous regardent ce soir connaissent déjà. J'ai l'impression que les personnes qui nous regardent te connaissent déjà. Donc voilà. Et tu viens de publier aux éditions JC Lattès, je le disais, Les hommes hétéros le sont-ils vraiment ? Un titre volontairement provocateur, il me semble, ou en tout cas pas provocateur, mais qui pose question. Je crois que c'est ce que tu as vraiment envie de faire, de questionner les gens à travers ce titre.
Bah oui, ce que je trouve intéressant dans ce titre, c'est qu'à lui seul, il est assez révélant, parce qu'il y a un peu trois réactions. La première, ça peut être vraiment tout type de personne, mais qui peut être vraiment de la curiosité, et ça laisse personne en différence, ça c'est sûr, mais une certaine curiosité de « ah oui, ça m'interpelle, pourquoi, intéressant ». La deuxième, alors là, bravo, vous êtes positif à l'homophobie, si c'est votre réaction, ça va être « ah non mais moi, je ne suis pas gay, rien à voir », et donc là, voilà, il y a des hommes qui vont être tout de suite sur la défensive et qui vont avoir besoin de tout de suite se distinguer des hommes gays. Donc ça traduit quelque chose quand même de l'homophobie qui reste dans nos sociétés. Et la troisième, ça va être, mais imaginez un titre, les lesbiennes le sont-elles vraiment? Et là je suis en mode, bon bah écoutez, ça existe déjà. Dans toutes les facs de France, il y a des milliers d'élèves chaque année qui apprennent par exemple la jeune homosexuelle de Freud, qui dit que les lesbiennes par exemple ont un problème avec leur papa. Et les thérapies de conversion, ça fait que un an, quoi. Donc
donc voilà. Y a quand même déjà pas mal de choses sur ça pour qu'on ait envie de se poser la question dans l'autre sens.
Voilà,
pour
nous,
une fois.
Les LGBT, on s'est posé la question toute notre vie d'être sûr que on aimait vraiment l'autre genre. Donc c'est bien un peu que tout le monde puisse se poser cette question.
Alors, dites-nous si vous nous entendez bien dans le chat, normalement c'est bon. Avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est vrai que bon, personnellement, moi j'ai découvert Mécréante d'abord via le compte Instagram, que je vous recommande vraiment à vous qui nous regardez d'aller voir, c'est bon, on nous entend bien. Allez découvrir ce compte Instagram si vous ne le connaissez pas déjà, puisque c'est un compte sur lequel tu publies des petites analyses courtes, mais extrêmement fouillées sur plein de sujets. On peut trouver des idées reçues, des mythes, ou encore des petites phrases qu'on entend régulièrement comme on peut plus rire, pas tous les hommes, ou séparer l'homme de l'artiste. Donc c'est vraiment très très instructif. C'est ton compte Instagram et il y a le podcast aussi dans lequel tu poses des questions en allant à la rencontre d'expertes sur différents sujets comme est-il rationnel d'être féministe ? Donc si ça vous tease pas assez pour aller voir ce podcast, pour aller écouter ce podcast, je sais pas ce qu'il vous faut, ou tu tentes de répondre à la question dans la nature, le mâle est-il dominant ? C'est le dernier des podcasts que j'ai écouté d'ailleurs, c'est pas le dernier pourtant, parce que c'est un des premiers, c'est le premier même, et je l'avais jamais écouté. Donc et c'est vraiment, vraiment très très instructif parce qu'on apprend par exemple que la nature est une construction humaine pour justifier les mécanismes de domination. Donc voilà, c'est vraiment passionnant. Je vous recommande vivement d'aller découvrir tout ce que fait Léane.
Merci.
C'est passionnant. On attendait du coup ton premier essai que tu as écrit depuis un petit moment, il me semble, que tu as passé beaucoup de temps dessus.
3 ans, ouais.
3 ans, ouais, voilà, rien que ça. Et je dois dire qu'on n'a pas été déçus du tout, en tout cas moi pas du tout, parce que c'est vraiment plus de 300 pages dans lesquelles tu décryptes la séduction hétéro, ses ressorts, comment les mécanismes vraiment de séduction, en quoi ils consistent, et ce que ça donne autant dans l'histoire, la littérature, que la pop culture, et évidemment dans nos relations humaines plus concrètes. Donc voilà, on va tenter de faire le tour un peu de tout ce que tu proposes et de tout ce que t'offres dans ton livre. Moi, j'avais envie de commencer par une question un petit peu plus personnelle sur tout simplement comment est-ce que tu en es arrivé au féminisme déjà. Rien que voilà, est-ce qu'il y a eu un moment peut-être dans ta vie où tu t'es dit il y a un truc qui va pas, j'ai des questions à me poser et je veux trouver des réponses.
Moi, j'ai toujours été passionnée par les sciences humaines et les sciences politiques de façon générale. Et après, pour ce qui était le féminisme plus particulièrement, c'est vrai que j'ai eu des événements un peu traumatiques qui m'ont fait me rendre compte vraiment dès le lycée qu'il y avait quelque chose qui clochait et qui n'allait pas, mais que c'était pas que des rapports adolescents, qu'il y avait vraiment quelque chose d'institutionnel. Enfin voilà, j'ai été victime de viol du coup au lycée. Et c'est vrai que le directeur de mon lycée à l'époque, ma première question qu'il m'a posée, c'est est-ce que je l'avais pas un peu cherché? Est-ce que j'avais bu, est-ce que, enfin vraiment des trucs comme ça. Il m'avait demandé d'épeler toutes les relations sexuelles que j'ai eues dans ma vie, le nombre de partenaires, de copains, pour établir si j'étais une bonne victime ou pas. Donc là j'avais compris que vraiment il y avait quelque chose, parce que déjà les femmes adultes de cette époque là n'étaient pas sur la même ligne, c'était avant MeToo, et j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui clochait, et j'ai essayé de me reconstruire aussi par la connaissance, par le fait de lire, qui a toujours été un moyen pour moi de trouver des réponses à mes questions. Et ça a un peu commencé comme ça, puis après quand on met le pied dedans, on s'arrête plus quoi.
Ouais, et c'est, du coup c'est comme ça qu'est née, j'imagine, Mécréante. Enfin c'est comme ça, je veux dire, c'est de tes réflexions que tu as eues à la suite de cet événement traumatique que tu t'es dit, bah aussi peut-être partager ce que j'apprends.
Oui, ouais. C'était vraiment partir des questions que j'entendais autour de moi et de mes propres questions, et d'avoir des réponses sur un temps long qui soient fouillées, qui soient détaillées, mais en même temps qui soient vulgarisées, pour que pas besoin de faire des études de genre pour le comprendre, mais en même temps voilà, d'aller vraiment dans le fond du raisonnement et de la question quoi.
Alors, n'hésitez pas dans le chat à poser vos questions à Léane, à nous dire aussi par moment si vous vous reconnaissez dans les thématiques dont on va parler, parce que je pense que ça peut être très intéressant d'avoir vos contributions. Et je vois déjà Emma Kumba qui dit quelle violence, et effectivement en réponse à ton témoignage. Alors pour rentrer dans le vif du sujet et parler de ton livre, puisque c'est ce qui nous réunit, on a parlé du titre du coup et de ces réactions qui du coup découlent de la lecture du titre. Moi, je voulais savoir, voilà, pourquoi, puisqu'il y a eu donc le podcast, il y a ton compte Instagram, à quel moment tu as eu envie d'écrire sur ce sujet, pourquoi, et pourquoi en faire un livre, du coup, sachant que tu avais déjà d'autres modes d'expression. Qu'est-ce qui t'a poussé à te dire « je vais en faire un livre » et pas juste un épisode de podcast, entre guillemets
Mais en fait, c'est parti déjà de Nos Amours Radicales, donc de la promotion, où énormément de femmes venaient me voir et me disaient « Je fais la lecture de votre livre à mon compagnon, à mon mari le soir. » Donc elles s'asseyaient, elles prenaient le livre et elles leur faisaient la lecture, parce que sinon, ils voulaient pas lire, ça les intéressait pas. Et il y avait énormément de souffrance de la part des femmes qui nous faisaient des retours sur le livre, parce qu'en fait, on questionnait le couple, l'amour d'un point de vue politique, intime, etc. Et disait, moi, ça me passionne, c'est des choses que j'ai envie d'aborder avec mon partenaire, mais lui, ça ne l'intéresse pas. Et ça revenait, et me disait, mais comment faire? Enfin, beaucoup de femmes me disaient, mais comment faire pour qu'il s'intéresse? Et j'étais là, mais je pense qu'on fait fausse route, parce que la question, c'est, mais pourquoi il s'y intéresse pas? Et là, vraiment, je me suis dit, il y a un paradoxe quand même assez saisissant, c'est que... les femmes sont tout le temps en train d'essayer de convaincre les hommes finalement de s'intéresser à ce qui les intéresse, de s'intéresser à elles, et en fait personne ne se demande des gens se sont demandé, mais peu de gens se demandent pourquoi ça ne les intéresse pas, et comment expliquer qu'ils préfèrent tout le temps passer du temps entre hommes, mais qu'en même temps il y a de l'homophobie, mais qu'en même temps ils doivent être en relation hétéro, etc. Et tous ces paradoxes, j'ai vraiment, au fur et à mesure que je creusais, je me suis rendu compte qu'ils avaient été très peu théorisés, analysés, etc. Et qu'il y avait vraiment un vide. Enfin, ça avait commencé dans les années 80, mais avec l'épidémie du sida et du VIH, beaucoup d'intellectuels qui ont travaillé sur ces questions sont malheureusement décédés. Et donc j'ai décidé un peu de reprendre ça, et je me suis dit c'est beaucoup trop tentaculaire, déjà le livre fait 323 pages, et c'est beaucoup trop complexe comme question pour juste un petit épisode ou un article de 10 minutes de lecture, c'est pas possible quoi.
Ouais, oui, c'est vrai que le livre fait 323 pages, si vous ne l'avez pas vu, je vous le remontre. Donc effectivement, puis 3 ans de travail aussi, quand même, c'est énorme. Et tu parles voilà, de ce vide qui existait, du coup, de ce manque de ressources, de ce manque de théorisation de ce sujet. Moi, je voulais savoir, quand on est arrivé à te poser cette question, j'imagine évidemment que la première chose que tu as fait, c'était de tourner vers ce qui existe, dans ce qui a été produit dans la littérature, de chercher des textes. Qu'est-ce que tu as trouvé ?
J'ai trouvé plein de choses, mais ça a été vraiment un puzzle infini, une petite pièce par-ci, un indice par-là. Enfin, j'ai vraiment mis cette casquette de c'est une enquête, et c'était passionnant du coup de partir vraiment à la recherche de cette question, et j'ai trouvé plein d'exemples, énormément, donc toute la littérature du 19e siècle par exemple, traversée par ce qu'on appelle aujourd'hui la bromance. Puis après j'ai trouvé, heureusement, il y a quand même des intellectuels LGBT, d'études de genre, etc., qui avaient commencé à creuser ces questions, mais en fait souvent dans la recherche, etc., on va avoir un angle très précis. Donc il y a plein d'études et de thèses qui sont citées dans le livre, aussi des exemples de pop culture, de séries, donc ça passe de Netflix, des youtubeurs, on parle de McFly et Carlito, puis après on va parler de Dracula, enfin voilà, j'ai essayé de varier aussi les exemples pour que peu importe le niveau où on en est, plutôt intéressé par la pop culture ou plutôt par la littérature ou par l'aspect scientifique, il y en a un peu pour tout le monde, dans un truc que j'ai essayé de faire le plus fluide possible. Et voilà, donc ça a été une vraie enquête, mais c'était extrêmement passionnant. Enfin, ça a été ce sujet m'a dévoré vraiment, c'est devenu obsessionnel, et maintenant je pense que là j'arrive, j'ai fini, j'ai fait le tour du sujet, je peux passer à autre chose.
Mais c'est vrai que du coup tu parles de tout ce que tu as pu trouver dans l'histoire, de l'histoire à la pop culture aujourd'hui. Mais voilà, côté, on va dire, théorie, il y avait rien, en fait. Il n'y avait pas de... Alors, il y avait quand même des théoriciens, des théoriciennes, et tu en cites certains dans ton livre. Mais en tout cas, c'est ce que tu disais tout à l'heure, il y avait vraiment un vide, au final, sur ce sujet précisément.
Alors, en fait... Il y avait déjà des choses, mais notamment beaucoup dans la psychanalyse. Mais le problème, c'est qu'elle a été faite par des hommes, pour des hommes, sans aucune relecture féministe. Et il y a eu des relectures féministes de la psychanalyse, bien sûr. Mais alors, des fois, c'était essentialiste, ou peu avec un angle queer. Et là, je m'inscris dans un mouvement plus large. Aux États-Unis, il y a tout un mouvement de pensée queer qui repense la psychanalyse avec notamment des points de vue plus matérialiste, enfin c'est un peu compliqué, mais bon, qui mêle plusieurs courants universitaires, mais il y avait un gros manque sur l'angle, et ça vraiment, je trouvais des petits textes, des petites choses, des gens qui commençaient à en évoquer, à évoquer le sujet, j'étais là oui, et en fait c'était juste un texte de 10 lignes et ça allait pas plus loin, donc ça a été beaucoup de resignification et de création un petit peu aussi.
Et alors justement, est-ce que tu peux nous raconter comment tu t'y es prise un peu pour écrire le livre, parce que je crois que tu as fait vraiment beaucoup beaucoup d'entretiens sur ces 3 années. Qui est-ce que tu es allée interroger? Comment tu as choisi les personnes que tu interrogeais?
Alors je voulais que tout le monde soit interrogé dans le livre, donc c'est pour ça qu'il y a des témoignages d'hommes trans, de femmes trans, de meufs bi, lesbiennes, hétéros, cis, des hommes cis, des hommes bi, des hommes gays, des personnes non binaires, enfin vraiment il y a... En fait c'est parce que comme l'homme et l'hégémonie, tout le monde se construit par rapport à cette norme-là. Du coup, chaque regard est intéressant pour avoir un panoramique. Et du coup, la première année, en fait, j'ai fait que des recherches. J'ai lu tout ce qu'il y avait sur les masculinités, tout ce qui avait été écrit de près ou de loin. La deuxième année, j'ai fait beaucoup d'entretiens. Donc, dès que je croisais des gens en soirée, par exemple, des fois, ça partait en entretien informel. Ça me permettait un peu de mixer. Donc, pour ça, il y a, par exemple, un mec pizzaiolo que j'ai rencontré en soirée avec qui j'ai fait un entretien. Il y a, enfin, voilà, j'essaie de brasser. Et puis, il y a aussi, des fois, je faisais des appels en story, ça m'a aidé. En disant tel profil que, que je recherche particulièrement. Et souvent, ça répondait. Donc, ça, c'est vrai que c'était un appui assez considérable d'avoir une communauté derrière qui même pouvait dire, moi, je connais quelqu'un qui m'... Et donc, ça, c'était très précieux. Oui, vraiment une cinquantaine d'entretiens. Bon, pas jamais restitué tel quel, mais j'avais vraiment envie que ça parte aussi du quotidien, de ce que vivent les gens, pour pas être dans la pure théorie, un peu déconnectée du réel, quoi.
Oui, mais du coup, je comprends mieux quand tu dis que ça t'a vraiment bouffé, enfin bouffé, ça t'a envahi pendant ces 3 années. Si tu pensais même en soirée avec les gens que tu rencontrais, ça a dû. Il y a une question de Sassy Mouse. je sais que le livre n'est pas sorti depuis longtemps, mais as-tu déjà des réactions positives d'hommes hétéros ?
Oui.
Ah, trop bien, raconte. Oui.
Alors, j'ai eu un commentaire qui m'a fait beaucoup rire d'un papa, je sais pas quel âge il a, c'était pas spécifié, mais sa fille, très engagée, du coup, lui a offert. Et il était un peu en mode, j'y allais à reculons, et puis au final, ça a été douloureux. Souvent, les hommes me disent, c'est douloureux parce que je me reconnais beaucoup, je vois des comportements que j'ai eus, ça me rappelle des situations personnelles. Mais ça les laisse pas indifférents, et en fait, oui, j'ai vraiment... Mais des retours d'hommes qui m'ont dit ça m'a bouleversée, ça a changé ma vie, enfin vraiment, je m'attendais pas à autant de retours positifs. Tous les hommes qui l'ont lu, et qui sont venus me le dire en tout cas, ont aimé, quoi.
Trop bien, mais c'est super. Mais c'est vrai que, enfin, en le lisant en tant que femme, on ne peut que beaucoup se reconnaître. Surtout que tu mets aussi de toi dans ce livre, puisqu'il y a des récits personnels de situations que tu as vécues, justement. Donc, je pense qu'en tant que femme, on peut se reconnaître. Ce qui est dingue, c'est que des hommes réussissent à se reconnaître dans ces comportements, justement, de domination qui peuvent être décrits par moment. Parce que je pense qu'à partir du moment où tu te reconnais, c'est que tu reconnais ce schéma... de domination, donc que tu acceptes de dire bah ok, j'ai été dominant, comment j'en sors, c'est un peu le début de comment j'en sors,
complètement,
j'ai l'impression. En tout cas,
bah oui, c'est bien.
Alors de Sassy Mouse dit, trop bien et merci pour la réponse.
Avec plaisir.
C'est vrai qu'au tout début de ton livre tu cites Despentes. Je voulais juste Virginie Despentes, je voulais juste relire quel passage t'as cité. Donc c'est le début du livre, c'est un moment justement où tu parles de toi, où tu nous confies quand même quelque chose de très très personnel. Et à la fin donc de ce passage, tu écris: quelques années plus tard, quand je découvre les mots de Virginie Despentes dans King Kong Theory, ils résonnent dans ma chair. Les hommes aiment les hommes. Ils nous expliquent tout le temps combien ils aiment les femmes, mais on sait toutes qu'ils nous bobardent, ils s'aiment entre eux. Mmh. C'est un peu... ça définit un petit peu la réflexion initiale que tu as eue et qui a donné lieu et qui a donné naissance à cet ouvrage. La question de base que tu te poses avec ce livre, et c'est vrai qu'on se dit, ok, pourquoi les hommes, alors même qu'ils sont hétéros, se désintéresse autant de l'amour romantique? C'est la question que tu poses aussi dans ton livre. Avant peut-être d'en parler, je pense que c'est important de repréciser ce que c'est l'amour romantique, parce que c'est peut-être pas une notion qui est très claire pour tout le monde.
Alors, l'amour romantique, c'est une forme de sentiment qu'on a nommée romantique parce qu'elle évolue dans un cadre occidental qui a à peu près 2 siècles et demi. Donc c'est tout l'imaginaire, princesse et chevalier, mais c'est aussi, voilà, aujourd'hui ce qu'on appelle l'amour romantique en études de genre, c'est les relations conjugales ou les relations entre deux individus qui ont une connotation amoureuse dans le sens où on l'entend aujourd'hui. Parce que je définis, pour moi, il y a l'amour, et puis il y a l'amour familial, amical, romantique, et en fait c'est autant de formes d'amour qui sont aussi précieuses les unes que les autres. Et en fait notre société a tendance à hiérarchiser depuis très récemment l'amour romantique comme étant l'amour suprême.
C'est hyper intéressant ce que tu dis, justement, depuis très récemment. Parce que je pense que la plupart des gens se posent même pas la question, en fait, de l'importance qu'on... Enfin, la place qu'on donne, du coup, à l'amour romantique dans nos vies, qui est une place primordiale, très haute. C'est être en couple, c'est se marier, enfin, si on est vraiment dans le schéma très traditionnel... Et toi, là, en fait, tu nous dis, bah non, ça n'existe pas depuis si longtemps que ça.
Mais ça veut pas dire que les gens ne sont pas tombés amoureux avant la création de l'amour romantique, qui est vraiment une invention sociale de la bourgeoisie qui a remplacé du coup la noblesse dans l'Ancien Régime pour se distinguer et dire nous on a une forme de valeur, une vie plus sophistiquée, etc. Donc on peut dominer. Et donc en fait les gens pouvaient tomber amoureux avant, mais avant ce qui était le plus important dans la société c'était... l'amour divin, donc le fait de se porter son attention vers Dieu, etc. Et après, pour les hommes, c'était la camaraderie et l'amour viril qui était vraiment central. Mais en fait, on se mariait économiquement par devoir. C'était une transaction économique. Et puis, puis des fois, il pouvait naître, bien sûr, de la tendresse, etc. Mais c'était pas quelque chose qui faisait qu'on était validé socialement, en fait.
Oui, c'est vrai qu'en plus, enfin... À certaines époques, il y avait cette question de dot, on faisait des mariages, des alliances économiques, comme tu disais, entre deux familles. Parfois même, les personnes ne se rencontraient pas avant de se marier.
Bien sûr.
Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a fait que c'est devenu central, plus que l'amour divin peut-être? Qu'est-ce qui fait que c'est devenu central?
Mais vraiment, je le disais, ce prisme qui était à la fois pour se distinguer du coup de l'Ancien Régime, donc vraiment porté par la bourgeoisie, et ensuite les autres classes sociales ont suivi, c'était aussi pour se distinguer dans une période coloniale mondiale de d'autres peuples, pour asseoir une domination occidentale. Et ensuite, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'au fur et à mesure que les femmes obtenaient de plus en plus de liberté économique, etc. Et plus ce mythe s'est ancré, parce que sans remonter à l'Ancien Régime, on parle avec nos grand-mères, nos arrière-grand-mères, elles vont être en mode oui, bah on s'aimait, mais bon, il fallait bien se marier, et c'était déjà quelque chose qui était beaucoup moins ancré, l'amour romantique. C'était il fallait se marier par devoir, pour rendre sa famille fière, mais vraiment, c'est par Hollywood, par. Toutes les représentations culturelles, etc., qui a eu ce qu'on appelle un nouveau soft power, qui est venu faire en sorte que les femmes et les hommes continuent à se mettre en couple hétéro, sauf que là, le couple hétéro reposait non plus sur un impératif économique, mais sur des sentiments. Ce qui fait que par définition, c'est beaucoup plus instable comme structure, et donc c'est pour ça qu'il y a plus de divorces, mais c'est pas forcément une mauvaise chose non plus, quoi.
Et est-ce qu'il y a aussi un objectif d'emprise sur les femmes à travers cette romantisation du coup du mariage, qui est plus une alliance économique, mais qui est une sorte d'emprise à travers l'amour et les sentiments?
Mais alors c'est surtout un conditionnement qui est fait depuis l'enfance, mais pour des raisons qui sont à la fois politiques, économiques, parce qu'en fait tout ça, ça a pour but d'avoir ce qu'on appelle la famille nucléaire. Donc la famille nucléaire, c'est un papa, une maman et des enfants, parce qu'en fait les enfants vont créer ce qu'on appelle la force de travail, donc des personnes qui vont aller à l'usine et des personnes qui vont aller à la guerre en cas de guerre, et ça c'est important pour dans ce qu'on appelle un état-nation. Donc derrière, c'est un projet politique, une vision qui s'inscrit dans une économie capitaliste où il faut avoir des enfants, une structure où les femmes vont élever gratuitement les enfants, comme ça c'est pas à l'État de payer pour élever les citoyennes et les citoyens. Et donc en fait, tant qu'on sera dans une économie capitaliste, les femmes, et c'est un peu triste mais c'est vrai, pourront perdre tous leurs droits du jour au lendemain, comme on le voit aux États-Unis où l'IVG a été interdit, parce qu'en fait du moment où il y aura à nouveau cet impératif économique, ça reviendra. Et c'est pour ça qu'il faut être très vigilante et vigilant quand on voit des paniques morales dans les médias autour de la baisse de la natalité et tout, parce que c'est une façon de préparer l'opinion publique à ce que l'IVG par exemple redevienne illégal, ou que les personnes LGBT soient plus persécutées pour que la natalité augmente, pour servir encore ses intérêts et cette économie, quoi.
Mais alors comment ça se matérialise concrètement, ce qui peut partir de politique vers ce qui arrive dans l'intime finalement, le personnel?
Alors c'est compliqué parce que c'est aussi, il y a une part d'inconscient ou de schéma, parce qu'on reproduit ce qu'on voit autour de nous. Donc il y a une partie des gens, par exemple pour le cinéma, ils vont se dire c'est ça qui font que les gens vont en salle, ou les producteurs vont pas forcément aimer. Donc des fois il y a de l'auto-censure aussi. Bon, après c'est aussi beaucoup des coûts de production, etc. Et donc en fait C'est compliqué parce que quand on a que un seul modèle qui nous est présenté, forcément on va le reproduire en fait. Donc c'est pour ça que c'est bien par exemple de parler des discriminations qu'il y a autour des personnes LGBT et tout, mais être que dans cet unique discours, on oublie que les relations LGBT, il y a aussi beaucoup d'amour, beaucoup de joie, un aspect communautaire très fort, et en fait ça peut décourager potentiellement des personnes qui voudraient sortir des relations hétérosexuelles de le faire parce qu'on se dit ça va être que de la discrimination, du malheur, etc. Et ça aussi, c'est une forme de contrôle et de soft power qui empêche, quoi, quelque part.
Et tiens, petite parenthèse, du coup, pour les personnes qui nous regardent et qui peut-être se sentent concernées par cette situation que tu décris, à savoir une difficulté de sortir de l'hétérosexualité parce que ils et elles ne sont confrontés qu'à des représentations très négatives. Est-ce que tu as des ressources ? Je sais qu'il existe des podcasts, qu'il existe des livres aussi qui présentent peut-être d'autres représentations plus positives.
Et justement, je vous recommande le podcast Lesbienne au coin du feu qui est disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Il y a déjà 3 épisodes et c'est que des histoires de lesbiennes heureuses. Là, j'ai pas trop d'autres idées actuellement.
Trop bien, c'est déjà une bonne idée.
Allez écouter, il est très bien.
C'est déjà une bonne idée parce que c'est effectivement important de pouvoir aussi avoir des ressources, comme tu dis, qui montrent des représentations plus positives. Tu parlais du coup de tout ce, toute cette structure qui se met en place à travers la famille nucléaire, avec la figure du père, etc. Et tu parles beaucoup de cette figure du père dans ton livre. Et tu montres à quel point il y a une importance qui est vraiment majeure qui est donnée à cette figure, à la fois le père, le géniteur, mais aussi le père, ça peut être un patron, ça peut être un mentor, ça peut être plein de choses différentes. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus ?
Oui, c'est ça, ça peut être le patron, le pape. En fait, c'est ce que le sociologue Bourdieu appelle la théorie des champs. Donc, il dit qu'à chaque champ d'activité, donc le journalisme est un champ d'activité, la psychologie un autre, il va y avoir des chefs de ces champs. Et ces chefs, c'est ce que j'appelle les pères symboliques. Donc, en fait, dans les économies patriarcales, il faut savoir qu'il y a une seule monnaie qui existe en général. Donc, ça, c'est un indicateur qu'on est dans une société patriarcale, le fait d'avoir une seule monnaie. Et donc, okay. En fait, ce qui fait que quand il y a une monnaie unique, il va y avoir une pyramide plus simple qui va se mettre, et du coup quelques personnes vont concentrer le pouvoir, l'argent et le confort quelque part. Et donc il faut avoir, on nous apprend à essayer d'avoir cette validation, tout simplement pour nous aussi essayer d'avoir un peu de pouvoir, d'ascendant économique, etc. Et donc les pères prennent une place, les pères symboliques, etc., prennent une place importante à l'échelle de la famille et de la société parce qu'il faut un peu leur plaire, et les hommes sont conditionnés du coup à plaire aux pères pour tout simplement essayer de s'élever dans la société, etc. Et ça remonte à très longtemps, et on voit que ça perdure et que c'est de plus en plus, puisqu'aujourd'hui les milliardaires sont de plus en plus riches, etc.
Alors, c'est vrai que... Gwynaman nous dit « Mince, j'ai raté le début ». Bienvenue Gwynaman. Donc on est avec Léane Alestra, autrice de « Les hommes hétéros, le sont-ils vraiment ?». Donc bienvenue si tu nous rejoins. Alors c'est vrai que du coup, tout ça, et notamment le titre de ton livre « Les hommes hétéros, le sont-ils vraiment ?», amène à se poser la question, et tu le dis dans ton livre d'ailleurs, « On ne naît pas hétéro, on le devient ». Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment, tu en as déjà beaucoup parlé, mais comment ce construit social se met en place de faire de l'hétérosexualité vraiment la norme ?
Moi, ce que j'aime bien comme comparaison, pour que les gens comprennent facilement, je trouve que c'est de comparer avec la nourriture. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, en France, on va apprendre à aimer le camembert et on va développer un palais plus sensible au camembert. En Inde, par exemple, on va manger des mets qui sont plus épicés, et nous, on va là-bas, on trouve ça hyper dur à manger, et eux, voient pas le problème. Et en fait, c'est pareil avec d'autres formes de désirs, donc les désirs romantiques et sexuels. C'est-à-dire qu'il y aura toujours des gens en France qui n'aiment pas le camembert. Ça sert à rien de se creuser un milliard d'années la question de pourquoi ils aiment pas le camembert, mais une majorité va l'aimer parce qu'ils sont conditionnés à l'aimer. Et il y aura toujours des dissidents. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que, alors, c'est toujours un peu touchy, mais il y a eu des estimations qui ont été faites par les historiens, notamment sur la Grèce antique et romaine, aux périodes où c'était valorisé d'avoir des relations, d'être ouvertement bi, mais ces mots n'existaient même pas, ça n'avait même pas de sens en fait, d'être bi ou homosexuel, parce qu'en fait c'était plus méprisé de s'enticher des femmes ou de leur trouver un quelconque intérêt, puisque c'était des êtres considérés comme inférieurs. Et donc là, on voyait qu'il y avait à peu près quand même 10% d'hommes qui restaient hétéros. 100%. Donc en fait, on voit que même quand la norme se déplace à complètement à l'opposé sur l'échiquier, ben, il restera des gens qui seront dissidents et on ne sait pas pourquoi.
Et c'est hyper intéressant parce que justement, tu en arrives à aussi une partie de ton livre où tu expliques justement que pendant très longtemps, l'homosexualité n'était pas un tabou. Et là, de la même manière, j'ai envie de dire, dans quelles circonstances est-ce que c'est devenu tabou ?
Alors ça, c'est super intéressant. En fait, c'est chrétien déjà, faut vraiment resituer, parce qu'il y a énormément de civilisations où l'homosexualité n'était pas tabou jusqu'à les dernières vagues de colonisation. Notamment aujourd'hui, dans la moitié des pays où l'homosexualité est interdite, c'est parce qu'en fait, la couronne britannique qui était il n'y a pas très longtemps, et c'est la couronne britannique qui a imposé des règles homophobe, comme d'ailleurs le crime d'honneur est une invention française de Napoléon, mais bon voilà, ça c'est un autre sujet. Et concernant du coup, j'ai oublié le début de la question, pardon.
Dans quelles circonstances du coup l'homosexualité est devenue tabou alors que, comme tu le disais, c'est pas le cas.
Oui, alors juste pour repréciser, il y avait des civilisations et des époques où il y avait quand même un rapport de domination, où l'homme viril pénétrait du coup des garçons plus jeunes, donc là c'était de la pédocriminalité, etc. Ou au Moyen-Âge c'était de l'amour platonique, parce qu'en fait toute forme de sexualité était condamnée, pas que entre hommes, et sauf si ça avait des fins de reproduction. Et du coup c'est devenu vraiment tabou à cause de saint Augustin, du coup, qui est un philosophe majeur, théologien majeur du christianisme. Et donc ce monsieur était fou amoureux de son meilleur ami, enfin moi du moins je le dis clairement, les historiens sont peut-être un peu plus tatillons, mais bon, quand on voit les lettres qu'il écrit, ma moitié a disparu, mon cœur n'a plus aucun sens, enfin bon voilà, du coup il est mort et ça a été un traumatisme horrible pour lui. Et donc à partir de là, il s'est converti au christianisme, il n'était pas du tout croyant avant. Et il avait aussi un autre problème, c'est qu'il était extrêmement misogyne et il disait que les femmes méritaient d'être inférieures parce que avec le lait qui coulait de leur sein, en fait qu'elles ne contrôlaient pas leur corps avec les règles, etc. Et donc c'était ce côté liquide des femmes qui méritait qu'on les domine, sauf qu'en fait il y avait quelque chose qui ne marchait pas dans son truc, c'était de dire mais du coup pourquoi l'érection, parce que ça il le contrôlait pas, et donc lui il était très triste d'aller au bain avec les hommes et de pas comprendre pourquoi il avait des érections. Vraiment c'était un gros traumatisme pour lui, et donc il s'est dit on va trouver un truc, on va partir sur le péché d'Adam et d'Ève. Et donc c'est lui qui a vraiment, c'était juste un truc qui était raconté comme ça, mais personne ne le prenait au sérieux, personne ne croyait à ça avant saint Augustin. Et donc lui est venu et a dit si c'est un vrai truc, c'est le péché d'Adam et Ève est resté dans l'humanité. Et donc comment il s'inscrit dans Ève, ça va être son péché à elle, ça va être qu'elle est tout le temps dans la séduction et qu'elle doit être soumise à son mari et qu'elle doit enfanter dans la douleur. Donc ça c'était le péché d'Ève, et il se traduisait comme ça, c'était sa punition terrestre quoi. Et le péché d'Adam, donc des hommes, c'était de ne pas contrôler ses érections.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Et donc il y a tout un truc comme ça. Et donc en fait, à partir de là, et sur les siècles qui viennent, le fait de séduire autrui devient féminin et devient la trace du péché d'Ève. Et donc les hommes qui séduisent d'autres hommes deviennent des Ève un petit peu, et donc deviennent des femmes, et donc c'est là en fait, parce qu'en fait l'homophobie c'est du sexisme.
Deviennent des pécheurs du coup.
Exactement, okay, et c'est du sexisme en fait l'homophobie, vraiment. Et c'est pour ça que les hommes se distinguent des femmes et se distinguent des homosexuels, pour asseoir une domination sur les deux groupes.
J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui se disent dans ce que tu racontes là, sur l'homophobie et sur les rapports hommes-femmes finalement. Il y a des questions encore de Gwynaman. Super intéressant. Ça m'amène à poser la question, c'est quoi un homme hétéro? C'est quoi l'hétérosexualité?
Ouais.
Est-ce que t'as une réponse?
C'est une très bonne question. Je sais que j'y réponds dans le livre, mais là...
Eh ben alors, il faut lire le livre, voilà.
Non, mais oui, l'hétérosexualité, c'est quand même, aujourd'hui, dans le sens qu'on l'entend. Donc, mais ça, c'est intéressant, on peut revenir dessus, mais en fait, à la base, l'hétérosexualité... Un homme hétéro, à la base, c'était autant une maladie qu'un homme homosexuel. Genre quand ça a été créé comme terme. Parce qu'un homme hétéro, c'était un homme qui aimait trop les femmes, et du coup il fallait le soigner, parce que c'était bizarre d'aimer trop ces êtres inférieurs, tout comme l'homosexuel. Et donc en fait ça, c'est deux termes qui viennent de la psychiatrie, qui sont là à la base pour pathologiser les individus déviants, et ensuite c'est devenu la norme, le fait d'être hétéro, mais ça a été un long parcours. Du coup c'est des étiquettes qu'il faut remettre dans un contexte psychiatrique, et à l'époque où la psychiatrie n'était pas forcément là pour faire du bien à tout le monde. Et aujourd'hui, le fait d'être hétéro, c'est la sexualité dominante, ce qui permet d'avoir un ascendant. Mais moi, ce que j'explique dans le livre, et ça je vous laisserai voir parce qu'on va pas trop spoiler non plus, mais c'est que l'homme hétéro, par définition, n'existe pas. Philosophiquement, l'homme hétéro, c'est une fiction en fait.
Voilà. Ouais, c'est ce que tu dis aussi dans le livre, on n'est pas hétéro, on le devient.
Et l'hétérosexualité n'existe pas. Enfin, le fait d'être un homme purement hétéro, être homme hétéro, en fait ça n'existe pas, puisque pour être un homme, il faut se distinguer des femmes et du coup les mépriser. Du coup on peut pas à la fois aimer ce qu'on méprise, et donc il y a une incohérence, c'est une fiction.
Ok, toute l'idée de ton livre, voilà, c'est ce que tu disais au début.
Mais c'est mieux expliqué dans le livre.
Ouais, c'est déjà très bien expliqué. Donc, et il y a Emma Kumba qui dit... D'ailleurs, avec les travaux de Kinsey vers 1950, on sait que l'hétérosexualité, voilà, n'existe pas, que l'orientation sexuelle serait à situer plutôt sur un spectre que sur un raisonnement binaire hétéro-homo. Du coup, ça revient un peu à ce que tu disais. dans tout ça, dans ton livre, tu parles de la bromance. Tu l'as rapidement abordé tout à l'heure, dont il y a un bon nombre d'exemples dans la pop culture de duos masculins. Je pense à Woody et Buzz dans Toy Story, à Dupont et Dupont, à Sherlock et Watson. C'est quoi la bromance?
La bromance, c'est une histoire d'amour gay qui ne s'assume pas. Voilà.
C'est très bien résumé.
C'est clairement ça, parce que il y a tout un passage où je fais parler les hommes directement et je leur dis, je prends un exemple de podcast où deux hommes parlent de bromance, donc là c'est vraiment leur mot, et ils le disent que pour eux c'est une relation d'amour, et c'est une relation d'amour la plus intense, et il y a même un homme qui dit, je trouve ça très parlant, mais voilà, c'est juste qu'avec un bro, on peut pas s'installer et faire toute sa vie avec lui. Et du coup, ce qu'on cherche chez une meuf, c'est une meuf qui a une personnalité, la personnalité de notre bro, mais qui a une enveloppe corporelle de femme. Parce qu'en fait, finalement, ce qu'il veut, c'est pour vraiment là cocher une case sociale. Parce qu'en fait, s'il le pouvait, il vivrait avec leur bro, mais il faudrait quelqu'un qui les aide à faire le ménage et la cuisine. C'est aussi ça qui rentre en compte.
Ouais. C'est un peu chercher une seconde mère, quoi, quelque sorte.
C'est ça.
Et tu dis aussi que c'est une figure qui est vraiment très forte chez les ados.
Ouais.
Pourquoi particulièrement chez les ados? C'est le moment où on se cherche.
Mais en fait, parce qu'il y a quelque chose de très romantique dans le beau sens du terme à la bromance, c'est-à-dire avoir une relation avec quelqu'un idyllique, où il n'y a aucune contrainte matérielle. Et aussi, ça permet, par exemple, je parle un peu des youtubeurs, des couples de youtubeurs, duo plutôt, du coup, même si et en fait, ce qui fait rêver les adolescents là-dedans, c'est l'idée de « Ah, mais on pourra rester toute notre vie, deux adolescents, pas obligé de se marier, d'avoir des enfants », et c'est vraiment quelque chose qui revient beaucoup. On pourra rester sur notre canapé à jouer aux jeux vidéo, et finalement, c'est ça dont ils rêvent un petit peu quelque part, les ados, et après on leur dit « Non, mais pour être un homme, un vrai, tu devras aller travailler, avoir une femme et des enfants », et en fait, c'est cette peur de rentrer dans ce schéma-là, qui se traduit et qui fait que l'attrait de la bromance, et tous les adolescents n'ont pas la chance aussi d'avoir un meilleur ami, compagnon de vie très puissant, etc. Donc ça fait rêver.
Ouais, donc c'est vraiment cette crainte de devenir un homme selon les diktats sociaux, en tout cas.
Exactement. C'est là aussi qu'on voit que c'est une construction et que ça n'a rien de d'inné ou de naturel et que même c'est vraiment une contrainte dans le vrai sens du terme, quoi.
Gwynaman demande, devrais-je lire le livre même si je ne suis pas passionnée par les hommes hétéros?
Oui, mais d'ailleurs le livre s'adresse pas spécialement aux hommes hétéros et c'est pas un essai de vulgarisation des masculinités ou un manuel pour expliquer la masculinité, c'est vraiment... Moi j'espère que des hommes gays vont le lire, je sais qu'il y en a pas mal qui l'ont acheté et j'ai hâte d'avoir leur retour parce que c'est aussi intéressant, je pense il y a des hommes gays qui sont interrogés et je pense que c'est vraiment hyper intéressant pour la communauté LGBT, pour les femmes cis, enfin vraiment il s'adresse à tout le monde et je pense que justement comme je le disais tout à l'heure, comme l'homme hétéro cisgenre est le dominant, l'hégémonie, et ben en fait ce qui est la norme va ruisseler sur tout le monde et va impacter tous nos rapports, peu importe où on se situe sur l'échiquier du genre. Donc vraiment, je recommande à tout le monde.
Moi aussi.
Bah, merci.
Alors, je disais au début, tu mets beaucoup de toi dans ce livre. Tu racontes ton parcours et notamment ta première fois, qui est un moment qu'on raconte pas tous forcément, donc tu le fais et je pense que ça parle à beaucoup de personnes, donc merci de l'avoir fait déjà. Et je vais pas rentrer dans les détails évidemment, lisez le livre, mais en lisant ce passage, on découvre justement, on voit un peu ce que c'est la bromance entre donc ton petit ami de l'époque et son meilleur pote. Voilà, on sent qu'il y a un petit truc de bromance. Mais on sent aussi une autre notion de ma copine passe peut-être après mon pote à qui j'ai tout de suite envie d'aller raconter ce que j'ai fait, etc. machin. Et là, ça m'amène à une autre notion que tu développes dans ton livre, qui est les potes avant les putes. Je pense ça parle à tout le monde ici. Mais quand même, explique-nous, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est quoi cette notion de les potes avant les putes?
Ouais, c'est un dicton qu'on entend hyper régulièrement et de qui est mis dans un contexte où c'est tu vas pas encore... faire ce qu'on appelle donc canard, c'est aussi un truc que les hommes disent parfois, donc privilégier ta copine à notre amitié, mais plus que l'amitié, parce que c'est souvent plus un effet de groupe, à l'entre-soi masculin et à la solidarité masculine, parce que tout groupe social pour asseoir sa domination, c'est pareil avec la question de la classe, doit rester entre eux, doit passer du temps pour être soudé en fait tout simplement. Donc ça c'est la notion de ça, c'est lié à la notion du boys club dont on parle un petit peu et que Martine Delvaux a beaucoup abordé et donc voilà, donc en fait cette phrase, derrière cette phrase il y a vraiment cette idée déjà qui est plutôt phobe et sexiste évidemment, mais il y a cette idée que elles sont subalternes et ta loyauté elle doit rester à nous, et ça c'est central, alors que je suis pas sûre qu'ils passent forcément des meilleurs moments entre amis toujours, mais c'est une question de loyauté qui d'ailleurs sont des valeurs très masculines qui sont ancrées par la cavalerie, tout un passé militaire, chevaleresque, etc. Donc ça s'inscrit dans une histoire longue, tout ça vient pas de nulle part, quoi.
Ouais. Et en tout cas, ça illustre pas mal le paradoxe dont on parlait au début, de l'homme hétéro est censé aimer la femme, les hommes hétéros sont censés aimer les femmes, mais là c'est un exemple de on va coucher ensemble mais après j'en aurai plus rien à faire et je vais aller raconter à mes potes et donc la femme derrière forcément en souffre, se sent rejetée, vit un nombre d'émotions et une expérience qui est franchement
déshumanisante.
Mais du coup ça me fait penser un petit peu à aussi tout ce qu'on se disait juste avant, et t'en parles dans ton livre, tu parles de relations tactiques et de ce besoin du coup qu'ont les hommes hétéros des femmes finalement pour plaire à leur père. Et là, leur père au sens génitaire, mais leur père aussi P-A-I-R-E-S.
Mais oui, en fait, c'est ça. Parce qu'en fait, y a tout le truc de l'archétype de la trophy wife. Donc en fait, donc là, ça date à peu près du 19e siècle. Là, c'est la période où les hommes ont commencé à mettre que des costards. C'est un lien, j'arrive.
Et du coup,
en fait, la femme devenait... Bon, ça a toujours été une monnaie d'échange, on l'a dit, mais devenait une façon de montrer aux autres sa richesse. mais pas de façon ostentatoire en la portant sur soi, mais bon, à part la belle montre, mais il fallait que la femme porte tous les apparats, les belles robes, qu'elle soit belle, etc. Parce que ça montrait en fait qu'on réussissait socialement. Donc vraiment comme les femmes ont un beau sac à main, désolée c'est horrible comme comparaison, mais il y a un peu de ça, bah, les hommes avaient une belle femme à leur bras pour montrer à leur père, regarde ce que j'ai réussi à choper quand même. Et c'est pour ça en fait, parce qu'en fait tout ça, ça s'inscrit dans des rapports de compétition entre hommes. Les hommes sont en compétition pour accéder à ce qu'on appelle la masculinité hégémonique, donc la masculinité la plus valorisée, et donc pour plaire au père. Et donc ce que j'explique après, c'est que du coup, il y a des fils qui vont être considérés comme légitimes, donc les hommes qui s'inscrivent dans la masculinité hégémonique, et d'autres comme illégitimes et qui vont être rejetés, donc par exemple les hommes gays, racisés, en situation de handicap, etc., gros, etc. Enfin, il y a vraiment toute une forme de normes qu'il faut respecter pour être approuvé. Il peut y avoir des petites exceptions, hein. Par exemple, si on est un homme blanc, cis, hétéro, de classe supérieure et qu'on met un peu de vernis, ça c'est ce qu'on appelle encore la masculinité hybride, on peut se permettre d'avoir des petits... parce qu'en fait ça fait cool et ça nous permet encore une fois dans cette compétition de nous démarquer un petit peu des autres, sinon on est trop tous pareils. Mais voilà, globalement, donc je développe pas mal avec cette idée du chef et comment ça se traduit ensuite en politique, etc.
C'est quoi le lien avec le costume? Tu disais c'est l'époque où on a commencé à porter des costards.
Oui, voilà, mais parce que du coup, eux étaient sobres, ils étaient tous habillés pareil, donc c'était la femme qu'ils avaient à leurs bras qui leur permettait
de les habiller, quoi, enfin entre guillemets, voilà.
Une monnaie d'échange, c'était d'avoir une femme belle, d'avoir une femme qui vient d'une famille riche, ça a toujours été un gage, enfin de toute façon, les femmes ont toujours été une monnaie d'échange dans les sociétés patriarcales.
Et je pense aussi, même pour aller plus loin, voilà aussi à la femme au foyer, qui, on en parlait tout à l'heure, qui gère son foyer, qu'on n'a pas besoin de payer pour l'éducation des citoyens, mais qui aussi peut être un atout majeur dans la carrière d'un homme.
Bien sûr.
Parce que, une femme qui a un trait d'intelligence, parce qu'on n'attend pas d'elle non plus qu'elle soit exceptionnellement intelligente, mais en tout cas, ça peut être aussi un atout, même pour la carrière de l'homme, aller gagner plus d'argent, se développer.
Exactement. C'est ce que je dis dans le livre, un petit peu que la mission des femmes, donc, d'où ce célèbre dicton, derrière chaque grand homme, il y a une femme, comme c'était un honneur et que c'était génial pour les femmes, alors qu'en vrai, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que derrière chaque homme qui brille, il y a une femme qui le porte à la fois émotionnellement, donc c'est-à-dire l'écouter, raconter ses problèmes, faire le ménage, parce que, par exemple, toute cette image qu'on a, donc là, c'est Alice Zeniter qui parle beaucoup de ça, qui dit, toute cette image qu'on a de l'artiste ou de l'écrivain qui enchaîne café sur café, qui mange à peine, et voilà. En fait, il peut se permettre de faire ça parce que soit il a des domestiques, soit il a une femme ou une mère ou une sœur ou une cousine. Généralement, une femme qui prend en charge tout ce qui est contingence matérielle. Mais c'est vrai que les hommes, en moyenne, les femmes travaillent une heure de plus par jour, tout compris, et cette heure de plus, c'est du travail ménager.
C'est que une heure, j'avais en tête que c'était...
Une heure de plus par jour, c'est déjà énorme.
C'est déjà énorme, mais j'avais en tête que c'était limite plus que ça, quoi.
Mais c'est moyen après, hein.
Ouais. Et alors, donc, je le disais au début de notre échange, il y a beaucoup, beaucoup, et tu le disais aussi, beaucoup de références à la pop culture, et pas que, mais dans ton livre. Et tu consacres notamment un long passage à Frédéric Becbédé. D'ailleurs, il y a une petite anecdote dessus que j'ai vue sur une de tes stories, je crois, sur ton compte Insta. Trop drôle, en lien avec Frédéric Becbédé. Je sais pas si tu veux nous la raconter.
Oui, je sais pas si la date de sortie du livre est repoussée, mais en tout cas, dans quelques semaines, il va sortir un livre qui s'appelle... donc qui est de l'autofiction, chronique d'un homme hétérosexuel légèrement dépassé, sachant qu'il y a tout un chapitre dans le livre Les hommes hétéros, le sont-ils vraiment, qui concerne un des personnages phares de Frédéric Becbédé, où j'explique en gros c'est sur le film, donc j'ai choisi exprès le film
L'amour dure 3 ans.
Donc du coup dedans il y a un personnage qui est le personnage principal qui est censé donc découvrir qu'il est pas si misogyne et qu'en fait il aime les femmes et donc il tombe amoureux d'une femme et on est censé trouver ça formidable et de voir qu'il a évolué et qu'en fait il s'est ouvert aux femmes et qu'il est plus un incel donc et en fait sauf que quand on regarde le nombre de répliques qu'a la femme dans le film, elle parle peut-être deux fois pour dire deux phrases, mais en fait il s'écoute parler tout le long du film, ce personnage, et il ne lui adresse... Enfin, elle ne parle jamais. Et en fait, ce qu'il aime, c'est la projection de son désir, de ce qu'il projette sur elle. Donc en fait, ce qu'il aime, c'est la projection d'un désir qu'il a lui-même créé. Donc finalement, ce qu'il aime, c'est surtout lui-même. Et donc, est-ce qu'on peut dire qu'on est attiré par l'autre, puisque c'est quand même la racine de hétéro, quand en fait, la seule chose qu'on aime... Parce qu'en fait, on voit un moment dans une scène du film qui joue... qu'en fait elle se soustrait à son désir, elle ne vient pas à un rendez-vous qu'il lui a fixé, et du coup il rentre chez lui, et on est censé trouver ça attendrissant dans le film, et il jette des fléchettes sur sa tête, sur une photo, de sa tête, pardon. et donc là, le spectateur est censé s'apitoyer, etc. Et donc c'est marrant, parce qu'on voit que dès qu'elle se soustrait pas à ce qu'il attend d'elle, ça passe dans la violence. Là, la violence symbolique sur une photo, mais c'est quand même violent. Ouais. Et on est censé trouver ça excusable et légitime, puisqu'elle n'a pas obéi, en fait, quelque part.
Et attendrissant, alors qu'effectivement...
Oui, c'est violent, en fait. Enfin,
ouais. N'hésitez pas dans le chat à poser vos questions à Léane ou à partager vos réflexions, les réflexions que nos échanges vous inspirent. On passe de la pop culture à la mythologie, puisque tout ça, et notamment cette analyse du personnage de Oscar, il s'appelle, je crois.
Oui, il s'appelle Oscar.
Dans L'amour dure 3 ans, t'amène dans ta réflexion au mythe du Pygmalion.
Ouais.
Dis-nous en plus.
Pygmalion, du coup,
c'est. Pygmalion, pardon.
Pygmalion, pardon. C'est moi.
Non, mais c'est moi aussi, j'ai dit Pygmalion.
Oui, non, mais. Moi, je suis dyslexique en plus, donc des fois sur les mots, je bute. Du coup, c'était un sculpteur dans la mythologie grecque qui a sculpté la statue de la femme idéale, et une fois qu'il l'a sculptée, parce qu'il n'arrivait à tomber. Pas amoureux, du coup, parce que ça n'existait pas à l'époque, et ça, c'est des mauvaises relectures, mais à trouver une femme pour épouse qui lui convienne. Du coup, il l'a sculptée sur mesure, et ensuite il a demandé du coup aux déesses et aux dieux de la rendre vivante pour pouvoir l'avoir à ses côtés. Et donc ça montre bien que là, encore une fois, la femme était une abomination, comme disait Aristote, pour lui, et du coup il fallait créer quelque chose qui soit directement de sa projection, de son désir. Et ça, c'est un travers que beaucoup d'hommes ont, de vouloir façonner les femmes à leur désir. Et on rappelle qu'en France, un quart des hommes encore aujourd'hui exercer un droit de tenue et de contrôle sur les tenues que portent leurs conjointes.
De tenue, de vêtements?
Ouais, un homme sur quatre, et y compris les jeunes hommes.
Mais non.
Si, c'est les études de 2022 qui viennent juste de sortir il y a 2 mois.
Ok, donc, et donc un homme sur quatre assume de dire je veux contrôler...
Tu ne sors pas si tu as mis une jupe comme ça, tu ne sors pas si tu as mis un décolleté comme ça, ouais. Un homme sur quatre.
C'est ouf, quoi. Donc on est pile dans ce que tu décris, voilà. Avec du Pygmalion. C'est pas possible, je veux dire Pygmalion, je sais pas pourquoi. Tu fais aussi référence à Dracula dans ton livre, qui est un exemple assez représentatif et incontournable pour illustrer cette ambivalence que tu décris des relations masculines. Pourquoi ? Enfin, quel lien, du coup ? Parce que, sur le coup, ça semble pas évident quand on connaît Dracula, et quand on l'a justement... quand on a consommé Dracula en tant qu'œil un peu naïf, qu'est-ce qui, dans Dracula, était intéressant ?
Voilà, c'est un de mes chapitres préférés. Je sais pas si j'ai envie de trop rentrer dans le détail, parce qu'on en a déjà dit beaucoup, mais
t'es pas obligée.
Mais vraiment, c'est trop intéressant, Dracula. Les vampires, de façon générale, il y a beaucoup de personnes queer qui ont analysé les vampires. Il y a même France Culture a aussi fait un podcast sur Dracula, assez intéressant, mais selon moi, qui allait pas assez loin dans l'analyse, même si j'adore France Culture et que c'est génial ce qu'elles font. Mais du coup, ouais, Dracula, il y a tout un truc, je vous laisserai découvrir, avec Oscar Wilde, avec le fait que l'auteur de Dracula était probablement homosexuel, mais surtout très homophobe. Et en fait, sur l'impossibilité à l'ère victorienne d'exprimer des désirs gays, donc en fait, on va enterrer ça sous 1 million de couches cryptées, etc. Et juste, ce qui est intéressant avec Dracula... Enfin, je vais pas faire trop l'analyse, parce que vraiment j'adore ce passage et j'avais pas envie de vous spoiler. Vraiment, là c'est trop...
Arrête-toi là, voilà. C'est pas grave, on a encore beaucoup de choses dont il faut qu'on parle. Mais quoi qu'il en soit, c'est vrai qu'on en dit beaucoup, mais pour rappel, le livre fait 332 pages, 332.
Oui, oui.
Donc très sincèrement, c'est hyper intéressant de le lire. Voilà, je dis pas ça parce que t'es mon invité de ce soir, mais en plus, il se lit vraiment très facilement.
Oui.
C'est assez agréable, parce que c'est quand même un essai assez costaud. On s'attend à un sujet lourd et ça se lit de façon hyper fluide. Donc bravo pour ça. Qu'est-ce qu'on a comme question dans le chat? Contrarium dit, je n'ai pas énormément de questions, c'est juste super intéressant, je trouve.
Merci.
Merci. J'adore Vertigo. Winaman dit, j'adore Vertigo de Hitchcock, qui reprend un peu cette histoire en fait. Tu connais?
Moi je connais. Oui, je connais, mais je vois pas le lien là, okay. Tout de suite.
Winaman, n'hésite pas à nous en dire plus. Je comparais à Pygmalion, c'est Dracula. Ça donne super envie de lire tout ça. Oui, très clairement. allez lire les livres. Je le remontre, hein, parce que comme ça, vous le verrez. Donc, Les hommes hétéros, le sont-ils vraiment? De Léana Lestra, qui est mon invitée, si vous nous rejoignez en ce moment. Finalement, dans tout ça, j'ai envie de dire, voilà, les hommes aiment-ils réellement les femmes? Et pour aller plus loin, quel lien on peut tisser entre cette réflexion que tu déploies dans ton essai et par exemple les violences faites aux femmes?
Oui, alors du coup, la thèse principale du livre, ça reste quand même comment expliquer que les hommes soient à la fois sexistes, homophobes et amants des femmes. Parce que forcément, moi, j'estime que c'est très compliqué de désirer, voire d'aimer quelque chose, pas forcément qu'on admire, mais pour qui on n'a pas d'estime. C'est très compliqué quand on n'estime pas quelqu'un de l'aimer, ou d'avoir du désir pour cette personne. Et donc il va y avoir une lutte et une tension en fait, parce que les hommes, pour être considérés comme des hommes, des vrais, doivent à la fois traîner entre amis, ça on l'a dit, à la fois se distinguer, parce qu'en fait il y a vraiment une distinction, donc se distinguer des femmes, donc forcément dénigrer ce qui a trait au féminin par exemple, etc. Donc pour ça que les petits garçons à la cour, un des premiers trucs qu'ils vont dire quand ils vont prendre conscience du genre, c'est je ne suis pas une fillette. Donc il va y avoir cette distinction. Donc à la fois il faut se distinguer des femmes, il faut rester entre hommes, mais attention, si j'exprime du désir envers un homme ou je le touche, je vais subir de l'homophobie et c'est pas bon non plus. Donc en fait de ces trois injonctions qui quand on les met bout à bout sont complètement contradictoires, ça va créer une tension en fait. Une tension qui va soit s'exprimer par de l'homophobie, donc par exemple des hommes homophobes qui vont aller frapper des hommes gays, c'est lié, ou de la violence contre les femmes, parce que ça va être souvent, je rentre du match, je suis bourrée, ma femme, et petit exemple, mais ma femme m'a empêchée de rester tard avec mes amis, quelle connasse, et là ça peut monter dans l'escalade de violence. Mais pourquoi? Parce qu'il y a une frustration. Mais cette frustration, elle est absolument pas la faute des femmes ni des hommes homosexuels, elle est là parce qu'en fait les hommes hétéros et cisgenres maintiennent eux-mêmes aussi quelque part ce système parce qu'ils leur profitent, on l'a dit, sur des aspects matériels et parce que ça leur permet d'avoir une position de pouvoir. Donc c'est parce que souvent, des fois, dans les milieux féministes, on entend oui, mais les hommes aussi, ils ont pas le droit de pleurer, etc. Enfin, et oui, je suis d'accord, mais c'est un peu comme dire oh là là, je prends un exemple exprès extrêmement caricatural, hein, mais. Oh là là, Poutine, il a pas le droit quand même de rigoler à la télé, d'être détendu. Oui, c'est parce qu'il est dans une position où il doit dominer. Donc pour dominer, il faut qu'il montre que cette domination est légitime. Donc on va pas non plus pleurer alors qu'à côté de ça, il y a des femmes qui meurent quasiment tous les jours des coups, etc.
Et au fond, on espère bien qu'il en pleure.
Poutine. Oui, voilà.
Donc, voilà. Mais c'est vraiment super intéressant. Dans le chat, il y a aussi Gildozor qui dit trop cool de te voir sur Twitch, Léane.
Merci.
Voilà, ça m'inspire une question que je pense. Je pense qu'on doit du coup, on a dû déjà te la poser plein de fois, et à mon avis, on va te la poser plein de fois. Mais du coup, c'est au fond, est-ce que on n'est pas tous bi?
C'est un peu compliqué comme question parce que la bisexualité, c'est une identité qui a du mal à être acceptée aujourd'hui en France. Justement, aux personnes bisexuelles, on va toujours leur dire tout le monde est un peu bi, ou alors choisit un camp, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est que oui, je pense que dans un monde sans contraintes, il y aurait toujours des préférences, parce que je pense qu'il y a un peu des attirances qui peuvent être, liées aux odeurs, par exemple, qui sont dégagées par les hormones. Il y a quelques personnes qui vont être sensibles à des choses comme ça, vraiment liées au corps. Mais c'est vraiment une ultra minorité, je pense. C'est extrêmement conditionné. Du coup, je pense que dans un monde parfaitement déconstruit, il y aurait quand même des gens qui auraient des préférences pour certains types de corps, etc. Mais ça resterait beaucoup, beaucoup, beaucoup plus fluide, comme on l'a vu tout simplement au travers de l'histoire, où 95% des hommes, par exemple chez les Vikings, 95% des hommes étaient homosexuels ou bi, et 95% des femmes avaient des rapports saphiques, et c'était pas un problème, etc. Donc oui, il y a une condition sûr de la norme à 95%, et en fait il suffit d'aller regarder un bouquin d'histoire et on le voit très vite, donc c'est sûr et certain. Mais aujourd'hui les personnes bisexuelles ont une identité qui mérite d'être visibilisée, légitimée, et parce qu'elles sont bi et qu'elles l'assument, parce que je trouve que aussi la bisexualité a un pouvoir de revendication et de contestation qui est très intéressant et très fort, parce qu'en fait on va avoir un discours psychiatrique très il y aurait, donc ça c'est Michel Foucault, un philosophe très connu, qui va dire qu'en fait on va essayer de dire il y a les hétéros d'un côté et les homosexuels de l'autre pour séparer les corps sains des corps mauvais, etc., à soigner entre guillemets. Donc il y a tout un discours comme ça hyper homophobe et hyper pathologisant, et en fait les personnes bi, on peut mettre le bazar là-dedans en disant mais en fait non, c'est beaucoup plus compliqué que ça, et il n'y a pas d'un côté des corps impurs et de l'autre côté des corps purs qu'on pourrait trier. Et du coup ça crée aussi beaucoup de panique morale, et j'en parle aussi dans le livre, justement c'est comment les personnes bi font que c'est plus difficile de trier encore une fois les bons sujets des mauvais, et voilà.
C'est super intéressant. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Pas mal de choses dans le chat, trop cool. Alors, on a une remarque donc de SGTDAC90, désolé si je prononce mal ton pseudo, qui dit « Salut, la description du personnage de BD m'a fait penser à un autre film avec des hommes de plus de 35 ans qui s'écoutent parler et qui, soi-disant, à propos d'une femme, Emmanuel... » C'est à propos d'une femme, Emmanuel, c'est surtout deux hommes qui s'écoutent parler. Je n'ai jamais compris pourquoi on faisait un symbole érotique. Tu vois de quel film... Je vois pas. Désolée, de quel film tu parles ? Emmanuel, le film Emmanuel.
Je l'ai pas vu.
Moi non plus.
Je connais pas. Il y en a énormément. Des films qui tournent autour d'hommes.
Il y en a beaucoup.
Les petits mouchoirs et tout. Enfin, c'est quand même globalement les bandes de potes en vacances. Même s'il y a une ou deux conjointes à chaque fois, ça reste globalement... elle est tolérée justement parce qu'elle est la conjointe. Mais ça reste des bandes de potes qui s'écoutent parler souvent. J'aime bien les petits mouchoirs, te l'a dit. Mais...
mais on peut aimer et avoir un regard critique. Ensuite, Emma Kumba dit « Sur la peur de l'homosexualité, je pense à une formule que je vois énormément passer sur les chats Twitch. » Bon, pas chez Mademoiselle. C'est le no homo.
Ah oui, bah oui, mais j'en parle aussi dans le
livre. C'est limite un réflexe immédiat dès que le stream parle de bromance ou d'activité plutôt féminine. C'est quoi ?
Mais alors, le no homo, c'est tout simplement une expression américaine qui a été importée en France, qui est beaucoup utilisée par les adolescents justement pour se distinguer. Et ça montre en fait l'usage si commun du no homo qu'il y a un trouble homo-érotique qui est là, parce qu'il y a toujours besoin de réaffirmer son identité. Et d'ailleurs, je parle un peu dans le livre d'une enquête qui a été faite par une sociologue sur jeuxvideo.fr et sur comment en fait il y a des traits de discussion complètement hallucinants, en mode mais du coup si je veux dormir avec mon meilleur ami et toucher ses parties intimes avec son consentement mais qu'on se regarde pas dans les yeux, est-ce que c'est homo? Et il y a des gens qui vont dire non, no homo si vous regardez pas dans les yeux, enfin vraiment des trucs, et c'est à moitié de la parodie, mais en même temps ça revient tellement tout le temps
qu'il y a un fond.
Et justement, donc j'en parle dans le livre, vous verrez, mais où il y a des challenges no homo, où il faut lécher le torse d'un autre mec, et il faut que l'autre mec reste absolument statique pour montrer qu'il est absolument pas attiré. Non mais c'est quand même incroyable.
Ça va super loin.
En Russie, ils ont créé, donc j'en parle aussi dans le livre, ils ont créé une télé-réalité où il faut trouver le gay parmi, donc c'est hyper homophobe, donc ils mettent 10 hommes dans un truc, et du coup c'est hyper homophobe. Homo-érotique parce qu'ils les font danser en petits costumes et tout, et en fait ils doivent trouver le sujet, le mauvais sujet dont on parlait, infiltré au milieu d'eux, pour essayer de montrer, et du coup tous les autres doivent absolument montrer qu'ils sont no-homo, quoi. Enfin c'est complètement...
c'est délirant.
Ça montre jusqu'où ça va dans l'absurdité, parce que cette tension elle est tellement prégnante que ça devient complètement absurde à la fin.
C'est genre un moment parlons-en en fait, plutôt que de faire des trucs débiles.
Non mais ils se rendent pas compte même. Genre vraiment en mode on va faire un challenge où je vais aller lécher le torse de mon meilleur ami et lui il doit pas avoir une ridule qui dépasse, sinon ça montre qu'il est secrètement attiré par moi, et du coup c'est le challenge de pas craquer. Et du coup le fait qu'il soit dans ce challenge de ne pas craquer, ça montre bien qu'il y a une tension quand même.
Ouais, bien
là,
sûr,
c'est difficile.
Il y a un fond aussi. Ouais. Non mais carrément. Caillou nous dit, ça c'est le féminisme social-démocrate de parler des mecs qui pleurent.
Ah oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure.
Oui, et ça montre que ça bouge, mais peut-être pas assez. dans la social-démocratie ou même un peu radicale, car côté anarch, pour beaucoup, c'est très radical.
Oui, bah oui, il y a des courants, effectivement. Bah, en fait, c'est un discours qui est devenu, qui a eu son utilité à un moment aussi. Hein. C'était important de le dire à un moment, mais c'est vrai que là, comme toujours, quand il y a une idée qui commence à faire son chemin depuis un moment, on peut la dépasser. Et d'ailleurs, je trouve que c'est un peu ce truc des hommes qui pleurent. Moi, je trouve en ce moment, enfin, j'ai la chance d'avoir la carte UGC illimitée, et du coup, je vais beaucoup au cinéma. Et c'est vrai que on voit de plus en plus des scènes avec des hommes qui pleurent, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, dans les scènes où il y a un homme qui pleure, là le monde s'arrête. Genre, c'est extrêmement important, alors qu'une femme qui pleure, elle va être hyper. Elle en fait des tonnes, etc. Et je trouve, les émotions des hommes, que ce soit la colère, que ce soit la douleur, que ce soit la tristesse, sont beaucoup plus prises au sérieux. Et oui, peut-être un impératif de virilité un peu plus, de ne pas pleurer, mais même en fait, il faut faire attention, parce que la masculinité, pour perdurer en termes de domination, reconduit toujours et change en fait de modèle. Et donc par exemple on voit là dans les dernières études qui sont sorties que la domination entre hommes et femmes dans la conjugalité est en train un petit peu de se déplacer, c'est-à-dire que les hommes sont prêts à faire un petit peu plus de ménage chez les jeunes générations, mais en échange ils vont attendre beaucoup plus de leur conjointe, qu'elle ait un rôle d'écoute, de psy, d'accompagnante, etc., pour ne pas payer le psy encore une fois, sans rendre l'appareil. Et en fait le problème c'est que du coup on a dit beaucoup aux hommes c'est bien, exprimer vos émotions, parler, etc. Mais du coup ça, attention à que ça ne devienne pas un nouvel impératif pour les femmes de tous les soirs je rentre et je dois t'écouter, raconter tes problèmes sans qu'il y ait de retour. Et c'est ça le problème, parce que se soutenir entre partenaires, il n'y a aucun souci. Le problème c'est quand ça va dans un sens
c'est pas réciproque,
et que ça permet de ne pas payer de psy par exemple, ou tout simplement de faire reposer sa douleur sur quelqu'un d'autre qui n'est pas ok,
d'économiser encore, que ce soit économiquement ou même moralement. Alors finalement, parce que j'aimerais bien qu'on termine cet entretien sur une note positive, c'est vrai que dans ton livre tu parles de la disparition du père, et forcément on est tenté de se dire est-ce que c'est pas ambitieux, tu vois, et en même temps on en a envie aussi, et donc pour finir sur une note positive, j'aimerais bien savoir à ton sens comment on sort de ce schéma très restrictif, de cette vision très restrictive de l'amour, comment on sort de ces constructions sociales dans lesquelles on vit, et qu'on est d'ailleurs très très nombreux et nombreuses à ne pas voir.
Oui, bah déjà la première, enfin il y a tout un chapitre du coup justement sur les solutions, parce que je voulais pas expédier ça. Souvent moi j'arrive frustrée à la fin des essais où il y a deux idées dites comme ça, et j'avais vraiment envie de me pencher sur le temps des solutions, et je voulais surtout que ça finisse avec beaucoup de joie et d'enthousiasme. J'espère que ça se ressent, parce que je voulais vraiment pas que ce soit un essai triste et plombant. Je voulais vraiment que les gens repartent en mode allez let's go, on y va quoi. Et donc du coup ce que je dis c'est que un des pièges dans lequel on pourrait tomber, c'est le fait de dire bah maintenant plus besoin de la reconnaissance du père, on arrête, etc. Et moi je pense que là il y a une erreur, parce que je pense que l'humain a foncièrement besoin de reconnaissance. Ça, pour moi, c'est obligé. On a besoin d'être reconnu et aimé. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, la reconnaissance, elle va entre pères et elle va vers, du coup, le père symbolique. Et moi, ce que je dis, c'est que la reconnaissance, il faudrait la trouver dans autre chose. Donc mettre toute notre énergie, puisque chaque personne a une énergie créative, une énergie qui peut s'incarner dans de l'art, dans des projets, etc. Et du coup, cette énergie, la mettre dans ce que j'appelle des projets de mutinerie ou des actes de mutinerie, et du coup, ne pas se contenter de paroles quand on est un homme, par exemple, et quand on est une femme, de privilégier plein de formes d'amour différentes. Je dis pas devenez toutes lesbiennes, sortez de l'hétérosexualité, forcément, si vous avez envie, très bien, let's go. Mais je dis essayez de pas tout miser sur le couple hétéro, et de ne pas oubliez vos amis, les gens que vous aimez, les animaux de compagnie, enfin plein d'autres formes. En fait, cherchez l'amour, enfin c'est un peu niais dit comme ça, mais cherchez l'amour genre partout où il est, parce que merde, on n'a qu'une vie, et pas le restreindre à un tout petit carcan qui est la conjugalité hétéro, et surtout mettre son énergie aussi, par exemple, je sais pas, dans la lutte écolo, par exemple, parce que c'est là l'occasion de créer un autre projet de société, un autre projet humain, tourner vers le bien commun et où on peut avoir une forme de reconnaissance les unes et les uns des autres, où on peut être valorisé pour ce qu'on fait, et ça c'est important. Et je pense que voilà, donc les hommes, s'ils ont envie de changer, bah, par exemple qu'ils s'investissent dans l'associatif, déjà commencer par aider leur conjointe, ça c'est la base, mais voilà, mettre cette énergie au lieu d'essayer de grimper dans l'échelle de sociale et d'avoir un poste de cadre alors que dans 50 ans on aura tous cramé sous le soleil, peut-être essayer de s'engager mais vraiment, encore une fois, dans des actes concrets, parce que sinon c'est trop facile les belles paroles, et surtout des actes collectifs, ça c'est important, parce que toute belle épiphanie, on peut lire un livre et être bouleversé, puis après on repart dans son train-train quotidien et on a vite fait d'oublier, alors que si on s'en met dans un syndicat, dans une association, dans un projet de théâtre, je ne sais quoi, là c'est collectif, donc on va pas lâcher, on va le faire aussi pour les autres et avoir une reconnaissance collective. Donc voilà le mot de la fin.
C'est super intéressant, franchement merci beaucoup. Et d'ailleurs on te remercie beaucoup dans le chat. Dak90s dit très intéressant, merci beaucoup, ça te donne une note d'espoir. Oui, et tout le monde te dit à fond merci, avec un cœur et des petits émoticônes. Oh. Il y a plein de cœurs aussi plus haut, voilà, fou. Donc c'est beaucoup. Trop cool. Effectivement, c'est très chouette de finir sur cette note positive. J'ai quand même encore une dernière question, parce que tu as passé 3 ans dans l'écriture de ce livre. Je voulais savoir maintenant qu'est-ce que tu vas faire.
Bah déjà je vais m'occuper de le faire voyager, parce que j'ai vraiment envie, enfin je le laisserai pas tomber, je veux vraiment le mettre entre les mains d'un maximum de personnes, parce que je pense que c'est un sujet vraiment fondamental pour repenser, enfin je dis ça, ça fait un peu prétentieux, mais je veux dire c'est vraiment un axe qui pour moi est nécessaire pour repenser la société de demain, et c'est un axe qui est trop souvent oublié, notamment à gauche, parce que voilà, bah, on a tous des biais de race, de genre, etc. Je pense que c'est vraiment ultra important de penser l'hétérosexualité comme une structure sociale et politique. Donc déjà je vais tout faire pour le faire vivre, j'aimerais qu'il dure et qu'il s'inscrive dans le long terme. Et après je sais pas, faut que je finisse mon master, parce que j'ai validé tous mes cours, mais en fait il me manque mon mémoire, parce que du coup j'ai pas pu le rendre en même temps que la fin de l'écriture du livre, ça faisait beaucoup. Et après on verra, je suis aussi maintenant journaliste à Manifesto 21, et j'adore l'équipe, ça se passe super bien. Et voilà, on essaie de travailler à l'avenir de mes créances pour qu'on garde des formats peut-être un peu plus ambitieux, pourquoi pas des formats vidéo studio, mais il faut débloquer de l'argent. Bref, ça c'est un peu une exclue, rien n'est fait.
Trop bien.
Mais voilà, on essaie de... En tout cas, ce qui me passionne, c'est d'apprendre et de transmettre. Mmh. Donc je pense qu'on continuera là-dedans, peu importe la forme que ça prend, quoi.
Bah écoute, c'est extrêmement bien fait, apprendre et transmettre, parce que tu le fais vraiment à merveille dans livre, mais vraiment méga passionnant. Lisez-le, achetez-le, partagez-le, offrez-le. Les hommes hétéros le sont-ils vraiment? Les analystes que vous pouvez du coup retrouver aussi dans le podcast et sur la page Instagram, et aussi il y a un site internet
de mes créantes. Et en blog Mediapart, où il y a plus d'articles encore, des trucs qui sont pas
donc,
sur Insta.
Donc allez lire. Gwynaman dit comment tu fais pour écrire un livre et un mémoire. C'est vrai que c'est assez impressionnant quand même. C'est assez impressionnant. Donc bravo encore, merci beaucoup à toi pour ce partage.
Merci à toi pour l'invitation.
Avec plaisir. Et si vous n'avez pas eu la possibilité d'écouter ou de regarder cette émission en direct, sachez qu'elle sera disponible en replay sur YouTube et aussi en podcast très bientôt. Et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle édition du Book Club. Merci Léane, à bientôt.
Merci.
Au revoir tout le monde.
Merci encore pour l'invitation.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.